Chapitre 25. La prison des fourmis. Lupo Nero ramassa une fine branche de noisetier et traça quatre traits dans la terre, égaux et à angle droit, pour former un petit carré de 20 cm de côté. Voilà. Tu t'assois et tu regardes.
Je regarde quoi ?
La terre entre les traits.
Mais il n'y a rien à regarder.
Obéissant, il s'assit tout de même, les fesses confortablement posées sur les feuilles sèches de la forêt. Il avait marché presque 2 heures pour arriver jusqu'ici. Il avait dû ruser pour que personne ne remarque son absence. Tout cela pour rester à fixer un minuscule carré tracé dans une clairière.
Je suis censé voir quoi ?
Osa-t-il demander à l'enfant sauvage. « Attends, et ne parle pas tout le temps. Concentre-toi. »«
Concentre-toi sur quoi ?»
Il ne voyait rien d'autre que de la terre, quelques feuilles à moitié décomposées, des petits cailloux gris, 3 brindilles. Il se renfrogna pour bien faire comprendre à Lupo Nero qu'il avait l'impression de perdre son temps. L'enfant sauvage s'assit face à lui, de l'autre côté du carré. Les tatouages de lune et de soleil recouvraient ses jambes et ses bras. « Tu es libre de t'en aller si tu en as assez. C'est toi qui me demandes de te révéler la sagesse de la forêt. Je me contente de te l'apprendre. » Il marqua un silence. « Je pensais que tu n'allais pas revenir. » Il répondit sans lâcher des yeux le carré de terre. Il le surveillait depuis près de 10 minutes déjà. Si un ver de terre géant en sortait, ça aurait été dommage de le rater.
Et il s'est passé beaucoup de choses au château et au tipi ces dernières semaines. J'ai été très occupé. Il n'a pas été facile pour moi de m'échapper.
Lupo Nero paraissait se moquer totalement des informations concernant les deux tribus. L'enfant sauvage semblait plus à l'écoute du bruit du vent dans les feuilles que de ce qu'il lui racontait. Le visiteur insista pourtant.
On a retrouvé le tombeau de Marie-Lune.
Lupo Nero ne réagit pas davantage.
Marie-Lune,
expliqua-t-il.
Notre mère à tous. Même les enfants du tipi viennent déposer des fleurs devant son sarcophage. C'est grâce à elle que plus personne n'a faim, soif ou froid. Nous avions une seule mère pour nous tous,
répéta-t-il.
Mais toi, tu avais ton père pour toi tout seul.
Il leva les yeux pour guetter la réaction de Lupo Nero. « Regarde dans le carré !» se contenta d'ordonner l'enfant sauvage. Lupo avait réagi trop vite, trop fort. Il avait perdu une seconde son assurance, au moment précis où il avait prononcé le mot « père ». Il continua d'interroger Lupo Nero, sans détourner les yeux du carré de terre cette fois.
« Parle-moi de ton père. Te rends-tu compte ? Tu es le seul enfant qui possède des souvenirs précis d'un adulte vivant.
Je te dirai tout quand tu seras prêt.
Tu avais 6 ans, c'est cela, quand il a disparu dans le lac. Mais avant de nager jusqu'à se noyer, que t'a-t-il enseigné ?
Lupo Nero ramassa la branche de noisetier et creusa une seconde fois les traits du carré.
Il m'a enseigné ça.
D'accord, il avait compris le message. Ce n'était pas encore aujourd'hui que Lupo Nero lui parlerait du passé, de ce que son père avait vu, entendu. Pourquoi il était parti vivre en exil, seul avec son enfant, dans la forêt. Il resta encore 5 bonnes minutes à fixer le carré de terre dans lequel rien ne bougeait. Il s'ennuyait. Il ne put se retenir de poser une nouvelle question.
« J'ai croisé Mordelia la dernière fois dans la forêt. Elle avait établi son camp avec Bill dans une grotte près du lac. »«
Je sais, je n'ignore rien de ce qui se passe dans la forêt. »«
Mais quand je suis repassé, son camp avait disparu. Elle était partie. »«
Elle n'est pas partie. Elle a été chassée. » Elle a reconstruit son camp trois fois à des endroits différents, et par trois fois il a été détruit. Par des soldats. Parfois, dans la forêt, j'en vois certains la chercher, ceux que vous appelez les moineaux. Ils se promènent toujours par groupes de deux ou trois.
Comment, pensa-t-il, Lupo peut-il être au courant de ces détails-là?
Parfois, c'est l'inverse. Certains moineaux, comme le jeune Pépin, traînent tout seul, en espérant que c'est Mordelia qui va le trouver.
Où est Mordelia?
Je ne sais pas. Je sais seulement qu'elle n'est plus dans la forêt. Maintenant, concentre-toi.
Encore? Cela faisait près de 15 minutes qu'il regardait les mêmes cailloux dans ce foutu carré. Pourtant, après quelques minutes de concentration supplémentaire, il vit enfin quelque chose bouger. Une fourmi. Puis une deuxième. Puis une troisième. Elles explorèrent rapidement le carré, puis s'arrêtèrent à la frontière, comme si les traits tracés constituaient un ravin infranchissable.
Tu les vois ? Il hocha la tête pour confirmer.
Alors, observe et réfléchis. À ton avis, que pensent ces fourmis ? Pensent-elles qu'elles sont prisonnières ? Ou que le monde entier se limite à ce carré?
Ah! Comment répondre à une telle question? Il n'était pas une fourmi.
Hésita-t-il. Un peu les deux. Puisqu'elles sont prisonnières de ce carré, elles ne peuvent pas savoir ce qu'il y a en dehors.
Tu ne réponds pas.
Je te demande ce que pensent les fourmis et tu me dis ce que tu penses, toi, parce que tu peux voir ce qu'elles ne voient pas. Essaie de te mettre à leur place. Crois-tu qu'elles puissent comprendre qu'elles sont prisonnières ?
Eh bien...
Lupo lui laissa encore quelques instants de réflexion avant de soupirer et de donner la réponse.
Non, évidemment, elles sont persuadées que le monde s'arrête à ce trait, qu'il n'y a rien plus loin. Leur monde se limite à ce carré. Elles ne s'y sentent pas plus prisonnières que toi sur cette terre. Et pourtant, tu es peut-être une fourmi prisonnière d'une planète ronde, observé par un géant capable de sauter d'étoile en étoile. Mais je vais poser ma question autrement. À ton avis, si elle découvrait qu'il y a quelque chose derrière ce trait, les fourmis devraient-elles essayer de sortir de ce carré?
Il répondit cette fois avec assurance.
Oui, bien sûr.
Pourquoi?
Eh bien déjà, pour se nourrir.
Regarde leur taille. Elles en ont bien assez dans ce carré.
Il paraissait sûr de lui.
Ou bien alors, elles doivent essayer de sortir par simple curiosité, juste pour le plaisir d'aller explorer, pour ne pas tourner en rond.
Il regarda les quatre traits.
Enfin, pour ne pas tourner en carré.
Ça n'arracha même pas un sourire à Lupo.
Selon toi, demanda l'enfant sauvage, les fourmis seraient-elles plus heureuses si elles pouvaient franchir ces traits?
Plus heureuses, je ne sais pas. Je n'ai pas idée si c'est gai ou non la vie d'une fourmi. Mais j'ai l'impression qu'elles seraient moins frustrées, que leur vie aurait plus de sens. Elles pourraient rapporter de nouvelles choses à la fourmilière pour l'agrandir.
C'est ce que tu penses? Il se concentra sur les fourmis qui essayaient, en s'y mettant à trois, de porter une minuscule brindille.
Oui, aller se promener le plus loin possible, trouver un trésor, genre une miette de champignon ou une fraise des bois bien pourrie, ça me semble déjà pas mal à l'échelle d'une fourmi.
Lupo Nero se leva.
Tu ne penses toujours pas comme elle.
Tu penses ainsi parce que tu sais que, après ces quatre traits, il y a une forêt, d'autres animaux, des réserves infinies de nourriture. Mais la fourmi l'ignore. Alors elle ne ressent aucun manque, elle n'éprouve aucune autre envie.
Retiens cela.
On ne peut désirer une chose si on ignore qu'elle existe. On ne peut pas vouloir la conquérir ou la voler pour la posséder. C'est la connaissance qui crée la frustration.
Il commençait à comprendre où Lupo Nero voulait en venir.
Un voilier. L'Albatros, commandé par deux ministres, est parti descendre le fleuve, jusqu'à la mer. C'est une erreur, selon toi ?
Louponero marchait dans la clairière, pieds nus. Il devait écraser sous ses talons des dizaines de fourmis qui ne découvriraient jamais le monde infini.
Ce n'est pas à moi de le dire, mais vous êtes comme les fourmis. Vous agrandissez votre petit carré. Vous allez découvrir ce qui existe au-delà des traits et vous aurez envie de le conquérir ou de le voler pour le posséder.
Écoute bien ça. Celui qui cherche à agrandir les limites de son carré n'apporte jamais la paix. Jamais. Les fourmis avaient disparu, avec leurs morceaux de feuilles, dans un invisible trou. Il se leva à son tour.
Je crois que j'ai compris.
Il se tordit le cou vers le ciel blanc.
Mais la paix, c'est peut-être accepter que quelqu'un d'autre entre dans son carré ?
Il enchaîna avant que Louponero puisse commenter.
Tiens, par exemple, l'hiver approche. Tu pourrais t'installer avec nous au château jusqu'au retour des beaux jours.
Louponero sourit sans répondre. Il était vêtu d'une courte tunique de cuir sans manches. Ça ne serait pas le premier hiver qu'il passerait dans la forêt. L'enfant sauvage grimpait déjà à un tronc. Il l'interpella avant qu'il ne disparaisse dans les feuillages.
« Ne fais pas le fier, Loupo. Si tu refuses de venir nous rejoindre, ce n'est pas parce que tu n'as pas froid, je le sais. C'est parce que tu as peur qu'on découvre ton secret. »